Vous écoutez France Culture.
Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Stéphane Dudoignon, vous nous avez habitués à d'autres types de livres. Je vous ai lu en tant que chercheur, je vous ai lu en tant que traducteur, notamment d'une œuvre du 19e siècle qui est très importante. Pour moi, elle a été une révélation parce qu'il s'agit d'un témoignage d'Asie centrale, qui est le lieu de votre spécialité, très proche. Structurellement, on peut dire qu'on était exactement dans la même situation historique que les mêmes textes de ceux qui s'étonnent de l'état de l'islam et du retard qu'il commence à prendre par rapport à une civilisation qui ne cesse de croître ailleurs. Ça m'a rappelé les textes des Égyptiens, des Tunisiens, des Turcs, beaucoup plus près, que votre Caucasien, qui s'est, ou plus que Caucasien, d'ailleurs,
Ouzbek,
non,
oui.
Ouzbek, voilà, totalement dans la même perspective. C'est tout à fait étonnant. Et là, vous venez à nous avec un livre d'une toute autre nature, Voyage au pays des Baloutches, paru aux éditions Cartouche, où c'est vraiment le récit de voyage où le chercheur se met en scène. On reconnaît d'ailleurs le chercheur, le narrateur est chercheur incontestablement. Là, c'est bien vous, mais un autre ton, un humour ravageur, un peu, je dirais, moi, entre Tintin et Jack London. La collection l'éditeur s'appelle Édition Cartouche. Qu'est-ce qu'il en est de tout ce programme, votre passage donc des écrits qui ont la dignité de la recherche jusqu'à cet écrit qui est totalement au cœur, je dirais, d'une littérature de voyage.
D'abord, pour vous répondre à propos de Cartouche, donc une jeune maison d'édition très, très anticonformiste fondée par Emmanuel Pierrat, donc avocat, grand avocat spécialiste du droit d'auteur, de la défense de la liberté d'expression aujourd'hui. Donc maison d'édition fondée il y a une dizaine d'années maintenant et qui comprend déjà une quantité assez importante de collections. Une maison d'édition qui, entre autres curiosités, a celle de la littérature de voyage. Elle est aussi bien l'éditrice des mémoires de Francis Drake que d'une collection, donc cette fameuse collection Voyage au pays des, qui cherche à révéler un certain nombre de populations, de groupes ethniques, de cultures, voire de civilisations très très peu connues des Français, très peu présentes sur la carte du monde, ou absentes peut-être de l'imaginaire français et francophone. Donc cette collection Voyage au pays des m'avait proposé il y a quelques années d'écrire un voyage au pays des Baloutches à un moment où je commençais à arpenter le Baloutchistan d'Iran. Pour ce qui est de la logique personnelle, donc de ce passage de la recherche sur les mouvements modernistes et réformistes de l'islam en Asie centrale au rivage de l'océan Indien, au passage d'une écriture scientifique à une sorte d'égo-histoire, ça m'a été un peu dicté par mon itinéraire personnel. J'ai tout simplement suivi un jour où je me trouvais à l'aéroport de Dushanbe, voyant des étudiants tadjiks en religion partir prendre un vol vers Mashhad. J'étais un peu étonné, les Tadjiks étant supposés être sunnis, je leur ai demandé « Mais qu'est-ce que vous allez fabriquer à Mashhad ?» Pas supposé être un très très grand lieu d'enseignement religieux et confessionnel sunnite. Ils m'ont répondu « Mais
chiite,
est tout à fait chiite, bien sûr, évidemment. »
En effet, que feraient des talibans sunnites
à Mashhad, qui est par excellence le lieu, surtout depuis 3 siècles, d'enseignement religieux chiite. Et ils m'ont répondu
« C'est le lieu du séminaire
par excellence. » Et ils m'ont répondu « On ne s'arrête pas à Mashhad. Mashhad, c'est juste un point d'arrêt. On disparaît dans la nature. On va dans des grandes madrasas, dans des grandes écoles religieuses qui sont au Khorasan, le long de la frontière afghane, ou plus au sud, au Baloutchistan. »
Ce retour au beau mot de Khorasan, parce qu'il est tellement présent dans la tradition littéraire de langue arabe, c'est presque le lieu mythique par excellence. Il a produit tellement de très grands esprits qui se sont exprimés dans la langue arabe. Le Khorasan a profondément nourri le classicisme arabe, disons, du milieu du 8e siècle jusqu'au 12e, 13e.
Absolument. Le Khorasan a été le cœur de la culture de l'islam entre le 8e, entre sa conquête et, on va dire, l'arrivée des Mongols, voire au-delà, jusqu'à la fin du 15e siècle, jusqu'au Timouride.
Vous le situeriez exactement?
Le Khorasan comprend aujourd'hui, il est à cheval sur plusieurs pays, toute la partie nord-ouest de l'Iran, toute la partie la plus occidentale de l'Afghanistan, ainsi qu'une portion assez significative de l'Asie centrale, anciennement soviétique, au sud de la Moudaria, entre des villes qui sont les grands creusets de culture du Khorasan, qui sont Mashhad, pas très loin de l'ancienne Tous du 10e siècle, pas très loin de Nishapur, qui a été au 10e siècle l'endroit où Nizam al-Mulk crée les premières grandes madrassas du califat abbasside. C'est vraiment le creuset par excellence
sous
de cette culture abbasside.
Sous l'autorité des sultans seldjoukides aussi.
Sous l'autorité, à partir du 11e siècle, des sultans seldjoukides. D'origine turque, qui produit cette espèce de synthèse extraordinaire arabo-persano-turc qui ensuite va se diffuser dans l'ensemble du monde de l'islam. Donc ce Khorasan, ce qui est tout à fait fascinant avec cette histoire d'étudiants tadjiks qui vont dans les madrassas un peu perdus dans la nature, au milieu des champs de safran, pas très loin de la frontière afghane, c'est que quelque part le Khorasan retrouve une place sur la carte qui n'était plus la sienne depuis des siècles, depuis quasiment l'époque safavide, depuis que l'Iran est devenu chiite, depuis que le chiisme est devenu religion d'État en Iran, et que donc une frontière s'est instaurée, une frontière confessionnelle importante, souvent conflictuelle, entre l'Iran lui-même et ses voisins orientaux, Kana, d'Asie centrale, Afghanistan à partir du 18e siècle. On a, depuis la fin de l'époque soviétique...
Pardonnez-moi, mais dans la tradition aussi, le Khorasan a la réputation d'être le lieu de la sédition. De là viendrait aussi un très grand nombre de position, et notamment c'est les sunnites qui parlent, c'est un réservoir de chiisme aussi, d'insurrection chiite.
Le Khorasan est au cœur à la fois de la culture islamique la plus officielle, avec le développement justement des ulum rasmiya, quoi de plus officiel justement, du cursus classique des grandes madrassas.
On a traduit ulum rasmiya, c'est les arts officiels.
Absolument, les sciences officielles.
Les sciences canoniques.
Canoniques, on va dire, absolument. Mais c'est aussi, dès le 10e siècle, le centre d'un mouvement soufi extrêmement important qui est arabo-persan, qui est la malamatiya, c'est-à-dire un mouvement extrêmement anticonformiste, qui cherche par le renversement systématique des normes admises.
On les traduit les gens du blâme.
Les gens du blâme, absolument.
La
voix du blâme, avec des auteurs comme Soulamy, qui a été traduit en français, dont plusieurs recueils de poèmes ont été traduits excellemment en français.
Leur ancêtre n'est autre que Bistami, non ?
Absolument, tout à fait.
Bistami, là, ça nous ramène vers la Caspienne et Elborz. Plutôt,
absolument, tout à fait. Mais dans cette tradition, et cette tradition de la voix du blâme, par laquelle le soufi, le mystique, cherche à attirer l'attention du croyant sur ses propres dépravations, sur ses propres manques, par le renversement des normes, par un comportement scandaleux que le soufi produit lui-même. Donc il y a toute cette littérature qui se développe.
Ruiner le prestige social, c'est ça le propre de l'homme du blâme.
L'homme du blâme ruine son propre prestige social et met en cause, par ses excès extrêmement spectaculaires, par la mise en scène
du scandale.
C'est un scandale permanent. Il remet en cause l'adhésion, justement, des croyants aux
normes. C'est la raison pour laquelle il fascinait Jean Genet, d'ailleurs.
Évidemment, bien sûr. Et beaucoup d'intellectuels occidentaux, et c'est une des raisons pour lesquelles un auteur comme Soulamy, qui a été oublié totalement de la tradition soufie, très peu de gens, y compris dans le monde de l'islam, se souviennent de qui était Soulamy au Xe siècle. C'est une des raisons pour lesquelles Soulamy a été traduit en langues occidentales. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la malamatiya, dont cette voix du blâme a connu un succès relativement important jusqu'à une époque tardive, je suis parvenu à en trouver des traces jusque pendant la période soviétique. Autrement dit, nous avons des soufis malamatiyas en Asie centrale jusque, en tout cas, la période Brejnev. J'ai en tout cas une ou deux biographies de soufis malamatiyas d'Asie centrale, y compris au cœur de la période brejnevienne, après donc la mort de Staline et l'élimination de Khrouchtchev. Autrement dit, on a là une des grandes continuités culturelles, vraiment, du Khorasan jusqu'à l'époque tout à fait contemporaine.
Alors, le Khorasan est au nord de la région que vous allez visiter, Balouchistan d'Iran, parce que le Balouchistan, dans sa grande partie, il est plutôt du côté un bout en Afghanistan, et surtout l'essentiel est au Pakistan.
Oui.
Donc là, nous sommes aussi, par rapport à la réalité tribale, dans des frontières d'État-nation artificielles qui cassent en tous les cas la logique de la territorialité tribale.
Tout à fait. Alors, bon, pour expliquer le lien entre le Khorasan, l'Asie centrale et le Baloutchistan, donc, je reviens au fait que j'ai mis mes pas dans les pas d'étudiants tadjiks, donc je suis un peu allé voir ce qu'ils étudiaient dans les madrassas que personne ne connaît.
Votre itinéraire commence à Téhéran. Première étape, Mashhad.
Première étape,
exactement,
Mashhad,
comme vos étudiants tadjiks.
Tout à fait. Beaucoup de journalistes tadjiks, beaucoup d'intellectuels tadjiks également qui vont un peu se ressourcer en Iran oriental, justement, dans cette longue culture, avec beaucoup de pèlerinages littéraires, beaucoup de grands poètes persans médiévaux, de Ferdowsi, etc., sont enterrés, ont leur tombeau aujourd'hui encore au Khorasan et on les visite beaucoup en venant d'Asie centrale. J'ai suivi ces étudiants, dont un nombre important, à mon très très grand étonnement, descendait vers le Baloutchistan. Alors le Baloutchistan, surtout le Baloutchistan d'Iran.
En apparence, c'est un immense désert. Hein.
Ah, le Baloutchistan, c'est supposé être un désert de la pensée islamique. Il n'est pas supposé s'y passer quoi que ce soit depuis les origines de l'islam, depuis le 7e siècle. Alors j'étais quand même très très étonné de ça. J'étais très étonné en arrivant à Zahedan, donc qui est une ville nouvelle créée par achats dans les années 1930, en plein milieu du désert, de voir une madrassa, par exemple, accueillant plus de 2000 étudiants, dont plusieurs centaines d'étudiants venant d'Asie centrale. Donc je me suis dit, quand j'ai découvert que ces madrassas, que ces écoles religieuses avaient parfois plusieurs décennies d'ancienneté, elles remontaient parfois au début du XXe siècle, je me suis dit, parfait objet d'histoire, une périphérie du monde de l'islam est en train de se transformer en foyer extrêmement important en une période relativement courte, c'est trois générations. Il est rare dans l'histoire d'une civilisation, qu'il s'agisse de la chrétienté, qu'il s'agisse du monde de l'islam, d'assister à un tel renversement de rôle et au fait que ce Baloutchistan d'Iran, qui est périphérique même par rapport au Grand Baloutchistan, le Baloutchistan d'Iran, c'est l'extrême pointe occidentale du Grand Baloutchistan qui va jusqu'à la vallée de l'Indus et dont les très grands centres urbains, les très grands centres de culture, sont dans la vallée de l'Indus. À Kalat, pas très loin de Karachi. Karachi elle-même est la métropole Baloutch par excellence. Les quartiers nord-ouest de Karachi sont entièrement peuplés de Baloutch et Karachi est la vraie capitale culturelle urbaine du Grand Baloutchistan. Donc cette pointe iranienne extrêmement occidentale s'est transformée en une période relativement courte depuis les années 20 sous un certain nombre de facteurs. On peut évoquer en particulier, vous parliez des talibans tout à l'heure, et je trouve ça extrêmement intéressant, parce que pour moi, d'un point de vue historique, cette histoire des talibans a commencé dans les années 1920. Qu'est-ce qui se passe dans les années 1920? Les Anglais occupent, pendant la Première Guerre mondiale, toute la pointe sud-est de l'Iran. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à contrer leur grande préoccupation du moment, qui est l'influence bolchévique. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour lutter contre les bolcheviques, qu'est-ce qu'on va faire? On va promouvoir l'influence des mollahs. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les mollahs qui sont dans le Khorasan, qui sont dans le Baloutchistan, on va les envoyer étudier dans les grandes madrassas, en Inde, ailleurs dans le monde de l'islam. Et on va essayer de promouvoir un islam assez traditionnaliste, bon, l'islam taliban tel qu'on le connaît par ailleurs, la grande école de Deoband. Et les Britanniques vont donc pousser, dans les années 1920, l'émergence en Iran oriental, l'émergence également dans toutes leurs frontières du nord-ouest de leur empire en Inde, l'émergence donc de cette nouvelle classe de religieux qui, progressivement au cours du XXe siècle, remplace les élites tribales.
Mais c'est exactement la même politique que celle des Américains en alliance avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan.
Mais c'est le début.
Dans la guerre contre les Soviétiques.
Le Pentagone. Ah,
la guerre des années 80, les années 1980.
La CIA a mis ses pas dans les pas de l'OSS. Elle n'a rien inventé avec Ben Laden. Elle a repris une politique que les Britanniques avaient systématiquement, avec des moyens plus limités certes, mais systématiquement, et formulée. C'est-à-dire que c'est une politique qui a été théorisée dans les archives de l'India Office Library. Vous trouvez des rapports d'agents britanniques au Baloutchistan d'Iran datés de 1927-1928 qui disent « L'influence bolchévique est en train de se répandre dans l'ensemble de la région. Nous devons contrer tout ce désordre et pour y mettre bon ordre, nous avons un allié de poids ici qui sont les mollahs. Nous devons les supporter, nous devons leur permettre d'acquérir des formations, nous devons leur permettre de créer des madrassas. Et ce n'est donc pas un hasard.
Si donc premières... la fameuse école du tablir, c'est ça?
Le tablir s'installe très très rapidement en Iran, donc la société pour la propagation de la foi.
Tablir, on peut la traduire comme ça.
Oui, parce que c'est la mission, c'est missionnaire, tout simplement. Le tablir, c'est la mission. Le tablirie, c'est missionnaire, tout simplement. En arabe, c'est un missionnaire, tout simplement. Donc une activité missionnaire extrêmement importante en provenance de la vallée de l'Indus, en provenance de Lahore, en provenance du nord de l'Inde, de Delhi, donc des principaux centres de culture islamique.
Missionnaire de la propagande d'Afédé.
Absolument. Donc ce qui est très intéressant, c'est que les Anglais qui luttent en Inde même contre cette influence de l'école de Deoband vont l'instrumentaliser et favoriser son installation à la périphérie de leur empire, en particulier en Iran, où depuis les années 1930, elle se développe de manière continuelle et où elle a aujourd'hui acquis une prééminence absolument considérable.
Alors, qu'en est-il de cette présence et de cette croissance sunnite au cœur d'un État construit sur le chiisme ?
eh bien, ça pose un certain nombre de problèmes, comme vous l'imaginez très, très, très bien. D'abord parce que ce sunnisme, cet enseignement sunnite, dans l'est de l'Iran en particulier, doit beaucoup de son influence, d'abord aux Britanniques eux-mêmes, ensuite au régime du Shah, qui a cherché à créer une sorte d'islam sunnite national en favorisant l'émergence d'écoles pour que les sunnites d'Iran ne soient plus obligés d'aller étudier ni en Arabie Saoudite, ni en Inde, ni au Pakistan à partir de 1947. Ça, c'est une chose que le régime du Shah a cherché à limiter en créant justement...
Depuis le premier Shah.
Depuis le premier Shah, depuis Reza Shah, absolument, dans une logique qui est assez proche de celle finalement des Britanniques. Donc ça, c'est un premier facteur, puisque cette émergence du sunnisme iranien est très largement due à la fois à la présence britannique et au régime impérial. Donc il y a un problème de légitimité. Et évidemment, il y a eu au début de la révolution islamique à la fois un certain enthousiasme, dans la mesure où on a quand même affaire à un personnel religieux très important, et qui malgré tout était assez hostile à un régime identifié à l'influence culturelle occidentale. Il s'agit quand même malgré tout d'un creuset culturel qui est le même que celui des talibans qu'on connaît par ailleurs. Il ne faut pas le négliger. Mais on a aussi très très rapidement une sorte de désillusion qui s'installe chez les sunnites d'Iran, dès le moment où Khomeini installe d'abord sa dictature, ce qui n'était pas prévu par la révolution, y compris par un certain nombre de mouvements religieux à l'origine de la révolution qui a été dite ensuite islamique d'Iran, et ensuite avec les débats sur la constitution en 1979 et l'adoption de cette constitution en décembre 1979, il y a eu énormément de tensions, il y a eu énormément de représentants des communautés sunnites, des Kurdes à l'ouest, mais des Baloutches à l'est ont claqué la porte de l'Assemblée constitutionnelle en proclamant Urbi et Torbi, si je peux me permettre cette expression, et des Arabes du Khuzestan, oui. Plus minoritairement. Au Khuzestan même, qui est majoritairement chiite, malgré tout, ont claqué la porte de ces consultations. Et à partir de ce moment-là, des tensions sporadiques se sont installées. Alors, qui n'ont pas...
Il y a même, je crois, des groupes terroristes.
Alors, plus récemment.
Hein.
On a eu une période d'accalmie relative de ces tensions, en particulier sous les présidences Rafsanjani et Khatami. Donc, on peut dire que pendant une quinzaine d'années...
Alors, dans votre livre, vous vous interrogez sur y a-t-il une nuance ou non entre Ahmadinejad, Khamenei d'un côté, Rafsanjani, Khatami de l'autre. Vous êtes un très grand familier, non seulement de l'Asie centrale, mais aussi de l'Iran. Et le sous-titre de votre « Vous situez, voyage au pays du Baloutch » et entre parenthèses « Iran oriental ». En 28 de la République islamique. Hein. Nous sommes au 21e siècle, mais c'est l'an 28.
C'est l'an 28, absolument.
Nous sommes dans le calendrier où on entendrait du Brumaire, si j'ose dire.
Oui, parce que malgré tout, beaucoup de références de la République islamique et de ceux qui ont fait la révolution et qui sont aujourd'hui au pouvoir, parce que la génération qui est aujourd'hui au pouvoir en Iran est la génération des étudiants qui ont fait la révolution. C'est extrêmement significatif, beaucoup plus qu'à des époques antérieures.
Là, vous le dites, c'est-à-dire que ce sont les Pasdaran qui ont remplacé,
entre autres, les gens qui ont fait la révolution en 79, qui ont fait la guerre ensuite.
Qu'on a croisé partout,
qui occupent absolument tous les rouages du pouvoir. Ce sont des hommes de 55 ans qui ont un aspect physique assez proche. Ils sont tous originaires du centre de l'Iran, de la fameuse citadelle iranienne dont parlait le géographe Bernard Hourkat, qui ont fait la guerre pendant 8 ans, ou en tout cas un certain nombre d'années contre l'Irak, qui sont montés dans la hiérarchie sociale dont le corps des Pasdaran a servi en fait d'ascenseur social, qui sont ensuite repartis parfois, l'ont quitté pour devenir universitaires, chercheurs, administrateurs, commerçants, etc. Mais qui ont gardé ce sentiment de cet esprit de corps, ce sentiment d'appartenance extrêmement fort et qui leur permet aujourd'hui en Iran d'exercer un contrôle extrêmement fort sur des rouages extrêmement larges de l'ensemble du pays, de son administration et de son économie.
Votre livre, Stéphane Dudoignon, est tout aussi vif que votre parole. Les auditeurs, à vous entendre, dans cette vitesse, dans ce bagout, si j'ose dire. Il est tout à fait présent dans le texte, mais en même temps, c'est très caustique. Il y a un humour cinglant et vous osez, construire, produire du discours autour de l'humour, mais à partir des concepts du chercheur, de l'anthropologue, du politologue. C'est très étonnant. Ça donne un ton très étonnant de cette origine des mots qui viennent du lexique technique et qui passe vers cette forme de littérature de voyage, de reportage. C'est étrange, comme si vous aviez cherché à renouveler le genre du reportage de l'époque coloniale. Là, vous dites, voilà ce qu'il peut en être de ce genre dans l'ère post-coloniale. Me tromperais-je ?
Je suis très flatté, évidemment. En tout cas, c'était une intention, c'était un projet. Et c'est ce qui me rend très attachant, le projet donc, des éditions Cartouche, qui n'est pas de revivifier, de ressusciter le genre colonial du reportage ethnographique, mais qui est de le revisiter. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des auteurs comme Kessel, avec des auteurs comme Morand, éventuellement?
Oui, parce que là, vous n'êtes pas seulement dans le folklore. Même le folklore paraît comme une forme de survivance. Hein, parmi les personnages que vous fréquentez, qui sont tous... Ce produit passe d'Aran, le même type de costume que vous décrivez très précisément, et il y a même de très fins lecteurs de Michel Foucault, par exemple. Espèce de fou de l'archéologie du savoir.
On n'imagine pas l'Iran comme
fin fond du Baloutchistan.
Et ça a été une de mes grandes surprises de découvrir un jour à Zahedan, chez un très jeune collègue de l'université locale, dans sa bibliothèque, une traduction entière, pirate évidemment, l'Iran n'est pas le copyright international, c'est un des grands mérites de la République islamique, sur lesquels on revient assez rarement, il faut le lui reconnaître, ce qui permet à l'Iran d'avoir une activité de traduction absolument débordante dans tous les sens, et vous arrivez sur la frontière pakistanaise chez un de vos jeunes collègues locales, donc au fin fond du Baloutchistan, et vous découvrez que il a lu tout Foucault en traduction pirate, ce qui, je pense, aurait beaucoup plu à Foucault lui-même, probablement, de voir justement tout un rayon de bibliothèque à Zahedan occupé par ses œuvres complètes. C'est une chose qu'on n'imagine pas, et c'est aussi un peu pour corriger cette image qui est souvent un peu caricaturale de l'Iran. C'est un pays absolument multidimensionnel. L'Iran est le genre de pays où vous pouvez écrire blanc, vous pouvez écrire noir, vous aurez toujours raison. Parce qu'il y aura toujours une partie de cette réalité kaléidoscopique de l'Iran qui correspondra à ce que vous dites. Il est extrêmement...
Ça vient de leur tradition métaphysique, probablement.
Ou peut-être, peut-être aussi d'une tradition. Alors certains le font remonter à l'époque sassanide, à l'époque médiévale, où l'Iran est un pays qui a très souvent, au cours de son histoire, développé une société par niche, en fait, où les différentes confessions, les différents régimes confessionnels, mazdéens, zoroastriens, ensuite islamiques, l'islamisation s'est faite de manière extrêmement lente et extrêmement graduelle, elle a pris des siècles, au Khorasan en particulier, et où tout cela voisine finalement. L'Iran est un pays dont la société a réussi au cours des siècles à produire une économie par niche qui est tout à fait extraordinaire et qui permet à des systèmes de pensée extrêmement différents de voisiner, alors plus ou moins harmonieusement, dans un espace qui par ailleurs peut être assez suffocant en première impression.
Vous arrivez donc la raison apparente de votre, parce qu'il fallait une raison, de votre voyage à ce bout du monde, c'est justement l'intérêt que vous avez porté vers cet enseignement sunnite, très étonnant dans ce qui historiquement n'était qu'un désert, dans un environnement et dans le cadre en tous les cas d'un État dont la religion officielle est le chiisme, et un de vos collègues iraniens, lui-même chiite, a la même passion de recherche. Une recherche anthropologique, sociologique, sur justement l'émergence de cet enseignement sunnite, international, puisqu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas seulement iraniens. Les Iraniens sunnites, ceux qui sont les Baloutches de nationalité iranienne sunnite, qui allaient donc apprendre ailleurs, maintenant, désormais, c'est chez eux non seulement qu'ils apprennent, mais qu'ils accueillent d'autres sunnites, comme vous nous l'avez dit. Et là, vous étiez en échange de recherche avec un de vos collègues iraniens, ce fameux lecteur de Foucault, si je ne me trompe pas.
Absolument, tout à fait. Alors, sur les deux aspects de votre question, oui, ce qui est tout à fait fascinant avec le Baloutchistan, c'est de voir que dans une période de temps relativement courte, il est en train de se transformer en un centre absolument majeur de culture islamique, en deux ou trois générations. On a évoqué les Britanniques, on a évoqué le rôle de Reza Shah, des Pahlavis, de la République islamique. Le fait également que le principal renouveau de l'islam en Inde, sur lequel s'est basé en particulier le mouvement taliban, est un renouveau qui s'est fait en Inde depuis le 19e siècle en langue ourdou, donc qui a favorisé la diffusion de ce mouvement de Deoband, ce qu'on appelle l'école de Deoband en
Tout cela
Inde.
Le point de départ n'est-il pas cette espèce de volonté de revenir au fondamentalisme,
oui,
tout en restant en lien avec le soufisme, avec le fameux Mahdi des années 1820?
Tout à fait. Il y a une volonté de retraditionnalisation de l'islam, de retour à des normes des premiers siècles, en tout cas de la période pré-mongole, qui caractérise justement cette école de Deoband, qui est une école extrêmement littéraliste, très penchée vers un renouveau de la tradition juridique des premiers siècles de l'islam. Alors le fait que cette école de Deoband se soit développée en langue ourdou a donc favorisé sa diffusion, notamment dans les strates relativement populaires de la société dans le sous-continent, mais à limiter cette diffusion en dehors de l'Inde et du Pakistan. Et ce que fait le Baloutchistan aujourd'hui, c'est qu'il sous-traite, il traduit de l'ourdou en quantité industrielle et il réexpédie, en persan notamment, mais également grâce à des sites web, souvent très professionnels, multilingues. Vous avez de l'arabe, du persan, du russe. Le russe devient extrêmement important au Baloutchistan.
Vous êtes arrivé de rencontrer des russophones et vous avez eu un aparté avec quelqu'un qui appartient à l'administration centrale, un représentant de l'État dans cet espace périphérique.
Tout à fait. Le Baloutchistan,
ça a hérité beaucoup l'auditoire, cet aparté en russe.
Oui, tout à fait, parce que je suis tombé au moment de mes problèmes avec les renseignements généraux iraniens sur un agent, donc un officier de ces renseignements généraux qui avait fait un certain nombre d'années de service au Tadjikistan. On a donc pu évoquer les belles années que lui-même avait passées au Tadjikistan.
Il semble d'ailleurs avoir été marqué par une dame russe.
Oui, absolument,
à jamais.
Tout à fait. L'Asie centrale occupe une place très particulière dans l'imaginaire iranien contemporain comme une forme d'exutoire. Le Tadjikistan en particulier, donc, qui est un pays persanophone, la langue parlée est un peu différente du persan parlé en Iran, mais il s'agit d'une même langue et l'intercompréhension avec un peu d'habitude est quasiment parfaite. Et donc pour les Iraniens, cette Asie centrale, anciennement soviétique, c'est une sorte d'Iran qui n'aurait pas connu ni le régime du Shah ni la République islamique, une sorte d'Iran idéal en quelque sorte, très profondément sécularisé évidemment, influence soviétique oblige, et où donc il est très agréable d'aller passer du temps, alors soit en mission, soit en goguette éventuellement, passer quelques week-ends. Et Dushanbe est devenu pour un certain nombre d'Iraniens, de même que certaines villes du Caucase, Yerevan en particulier, des espèces d'exutoires où beaucoup d'Iraniens, alors soit de la société tout à fait officielle, soit des marchands du bazar, etc., vont passer soit des week-ends où on peut se permettre énormément d'accès qui serait tout à fait inconcevable sur le territoire de la République islamique, ou alors tout simplement passer du bon temps en tant que représentant ou en tant que diplomate ou attaché de tel ou tel service. Sinon, pour revenir à votre question effectivement sur ce collègue iranien, ce qui est tout à fait intéressant, c'est l'intérêt que de très nombreux Iraniens et au sein même de la République islamique, au sein des universités, portent à la situation, notamment à la périphérie donc, du pays, à la situation des Baloutches. Et moi, j'ai eu le très très grand plaisir, la très grande joie, l'honneur de tomber sur deux collègues à l'université de Zorhedon qui s'intéressaient également à cette question des Baloutches, à cette question de la minorité sunnite d'Iran, qui trouvaient, en tant même qu'ancien Pasdaran ayant fait la guerre contre l'Irak, que cette situation n'était pas tout à fait normale et légitime, qui écrivaient eux-mêmes des articles dans la presse de défense et illustration, d'abord de la culture baloutche, créant même une revue qui s'appelle Haftiklim, les sept climats de promotion de la culture baloutche à l'intérieur de la République islamique, pour essayer de faire changer l'image de marque des baloutches à l'intérieur de l'Iran. Alors qu'eux ne sont pas absolument pas baloutches, tout à fait. Donc il y a quand même une sensibilité. On a affaire dans la République islamique à de très nombreuses personnalités qui agissent véritablement en tant qu'intellectuel, dans la définition classique de l'intellectuel de Zola à nos jours, telle qu'on la connaît en Occident et à laquelle, qui nous est à nous extrêmement familière, mais dont il faut insister sur le fait qu'elle est également extrêmement présente dans le paysage culturel de l'Iran depuis le début du XXe siècle, en tout cas, et aujourd'hui cela se traduit, pour ce qui concerne nos Baloutches, par le fait qu'un certain nombre d'universitaires, de publicistes, d'éditorialistes, d'hommes de presse, que ce soit au centre de l'Iran à Téhéran ou à la périphérie, eux-mêmes interviennent publiquement, en prenant parfois un certain nombre de risques qui ne sont pas que rhétoriques. On sait très bien comment fonctionne la République islamique et son niveau de violence proprement délirant, qui est parfois supérieur à celui que la Chine elle-même, en chiffre absolu, pratique sur son territoire, prennent donc un certain nombre de risques pour intervenir justement, pour défendre justement cette cause des Baloutches et favoriser un changement politique.
Votre quête des documents de recherche semble avoir été impressionnante, puisque vous avez constitué un paquet à Meshad, un paquet partout où vous passez, c'est un paquet qui vous attendait à la poste restante de Téhéran, si je ne me trompe pas.
L'Iran est un pays fascinant qui produit énormément de documentation sur lui-même, et ça c'est quelque chose d'assez...
Donc pour le chercheur, c'est exceptionnel.
C'est un paradis pour le chercheur, il y a de très bonnes routes, on peut voyager extrêmement facilement, il y a des hôtels ou des auberges absolument partout, on est toujours très 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 bien accueilli dans les centres de recherche, qui évidemment souffrent un peu d'une fin de contact avec le monde extérieur, donc il y a toujours un très très grand intérêt pour ce que
partout,
le chercheur
objectivement, vous étiez attiré avec une ouverture extraordinaire.
Extraordinaire hospitalité, fascination. Générosité, y compris d'ailleurs...
Alors, parfois, oui. Vous transcrivez votre nom. Comment il vous nomme Stephen, comment il prononce Stéphane?
Oh, Estéphane, mais Estéphane. Ça, oui, tout à fait. Voilà. On m'a appelé Mostafa, parfois c'est plus facile, évidemment. Il faut quand même insister sur le fait que je ne joue jamais le musulman. Moi, je fais jamais semblant de quoi que ce soit.
Ça, vous le dites régulièrement.
Je suis barbu parce que ça m'évite un certain nombre de questions désobligeantes sur pourquoi je ne me convertis pas tout de suite, etc. Et ça ne va pas se passer comme ça. Bon, ça me permet juste d'avoir un peu la paix. À part ça, moi, je ne fais pas la prière, excusez-moi.
Vous dites que vous ne jouez pas à la comédie.
Non, je n'ai absolument jamais joué à la comédie. Moi, je joue carte sur table. Je dis à quoi je m'intéresse, pourquoi je m'y intéresse.
Un de vos hôtes, d'ailleurs, habillé totalement à la traditionnelle, oui. Au corps du Baloutchistan, vous disait à un moment « Comment on me traiterait si jamais je me promenais ainsi, place de la Concorde ?»
Oui, à quoi je lui répondais que ce serait beaucoup plus simple pour lui d'être habillé en baloutche qu'avec un costume trois pièces, parce qu'on trouverait probablement ça très bizarre, vu la barbe qu'il avait et ses traits physiques. Et à mon avis, il vaudrait mieux qu'il joue lui aussi carte sur table, parce que c'est quelqu'un que j'avais prévu, évidemment, d'inviter. L'actualité politique ne l'a pas permis. Mais il est vrai que j'ai eu des échanges extrêmement intéressants avec des missionnaires du Tabliri Jamarat, qui s'étonnaient, par exemple, que le Tabliri et Jamarat soient autorisés dans un certain nombre de pays d'Europe, et pignon sur rue, et soient tout à fait officiels.
Alors, le Tabliri, c'est des fondamentalistes, c'est très important, des littéralistes, il faut le rappeler, mais qui n'ont aucun rapport avec la violence.
Mais qui n'ont aucun rapport avec la violence. C'est un mouvement d'islamisation, c'est un mouvement piétiste. Missionnaire, piétiste, absolument, tout à fait, de réislamisation par la catéchèse, on peut appeler ça tout à fait comme ça.
Ceux-là, ils ne sont pas très drôles, en vérité.
Hein. C'est pas ce qui est plus dionysiaque, on va dire, dans l'islam, c'est certain. Il n'empêche, c'est un mouvement qui a sa légitimité, qui est relativement ancien, qui joue un rôle qui est extrêmement important.
Donc c'est eux, essentiellement, qui ont été les interlocuteurs à travers toute cette concaténation de
Medrasa et d'institutions. Ce sont eux, ce sont les grandes madrassas.
Qui allaient de Zaïdan à Iranchar. Quoi.
Tout à fait, qui va du nord au sud du Baloutchistan, qui va même de la frontière du Turkménistan. Et ce sont des madrassas, des écoles religieuses qui fonctionnent totalement en réseau, très hiérarchisé d'ailleurs, et je pense, c'est une de mes hypothèses, que ça a été en fait une des diffusions du modèle chiite. Le réseau des écoles religieuses chiites en Iran est extrêmement hiérarchisé et centralisé, et les sunnites d'Iran se sont beaucoup inspirés de la manière dont justement une ville comme Qom fonctionne. Une de mes hypothèses, c'est que Zahedan au Baloutchistan cherche aujourd'hui à émerger sur la scène internationale comme un rival possible de Qom, comme un Qom sunnite à l'intérieur de l'Iran. Zahedan, donc la capitale du Baloutchistan d'Iran, cherchant à s'ériger en interlocuteur privilégié et de Qom et de la République islamique. Alors avec Qom, ça se passe très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'échanges entre clergés, entre religieux, sunnites et chiites en Iran. Avec Téhéran, donc avec la République islamique, ça se passe beaucoup plus mal. C'est un des paradoxes. Mais nous sommes dans un moment de l'histoire de cette République islamique où beaucoup de religieux sont rentrés dans leurs institutions et où le pouvoir est de plus en plus occupé par des civils et des militaires. Donc on a aussi une évolution sociologique du pouvoir qui se traduit par des tensions qui ne sont pas propres en Iran aux relations entre chiites et sunnites. Des tensions également très importantes existent entre le pouvoir lui-même et le clergé chiite iranien.
De cette tension, vous-même, maintes fois, vous étiez tout le temps, on a l'impression que vous marchiez sur un fil, en fait, tout le temps au bord de l'abîme, mais vous n'en tenez cure. C'est ce que vous semblez dire. La notion de crainte ne vous a jamais... atteint, votre cœur était ailleurs, votre esprit toujours ailleurs, toujours dans cette vision à la fois caustique, ironique sur le monde, ne ratant rien et jamais en situation d'urgence alors que vous étiez objectivement dans un contexte dangereux, le moins qu'on puisse dire.
Le contexte était dangereux, tout à fait.
Alors à la fin, évidemment, ça a abouti avec la suspicion des renseignements généraux, tout à fait au sud, du côté à Chabahar, qui est un port sur le golfe d'Oman. Alors là, vous avez eu presque un fantasme, puisque vous avez confondu, c'est presque un fantasme à la Rimbaud, mais peut-être moins poétique, puisque vous avez confondu un chantier avec d'énormes tours destinées à devenir des minarets encore donc gainés dans leur échafaudage. Vous avez cru que, là étaient installés des lance-missiles.
Oui, c'est une image. Bon, pour montrer aussi que ce qui se passe en Iran n'est pas nécessairement ce à quoi on s'attend aussi.
C'est peut-être un des lieux éventuels et possibles d'attaque navale de la part des Américains. Parce que là, on est au golfe d'Oman.
En 2007, les Iraniens s'attendaient d'ailleurs à un débarquement, ou à des attaques tout à fait imminentes. Et moi, quand j'ai été interpellé par justement les renseignements généraux locaux, les gens étaient très très étonnés que j'ai un visa dans mon passeport, que je ne sois pas arrivé en parachute et que j'ai pas d'armes dans mes bagages, à part quelques stylos et une vieille pipe et quelques paquets de tabac. Donc ça les a beaucoup surpris.
L'arsenal du fumeur de pipe semble avoir beaucoup impressionné.
Oui, voilà. Et déçu aussi, parce qu'on s'attendait quand même à découvrir un véritable arsenal. Vous imaginez, pour un officier des renseignements généraux, mettre la main sur un barbouze du Pentagone, évidemment, c'est un vecteur de promotion qui n'est pas à négliger. Donc il y a aussi cet aspect de déception qui a pointé très très rapidement dans nos conversations quand ces officiers ont vu qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui pour eux n'était pas extrêmement intéressant et en tout cas pas un vecteur de promotion. Sinon, pour revenir sur la peur et l'absence de peur, moi je ne crains pas que ça relève d'une vertu particulière. J'ai des principes très très simples. L'un, c'est de ne jamais rien dissimuler de ce que je suis, de ne jamais jouer à la comédie. Et le deuxième, c'est de respecter toujours la plus grande légalité. Bon, il m'arrive assez souvent de passer des passages piétons au rouge, mais en Iran, c'est à peu près tout ce que je me permets. C'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes tout le temps dans une parfaite légalité, une parfaite réglementarité, l'Iran étant un pays extrêmement policé, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Je pense que si j'avais été dans au Baloutchistan pakistanais, qui est beaucoup plus instable, où la police pakistanaise elle-même arrive beaucoup plus difficilement à faire régner son ordre, j'aurais probablement...
La virtualité d'être otage aurait été beaucoup plus forte.
Aurait probablement été beaucoup plus forte. D'autre part, en Iran même, je suis allé au Baloutchistan plusieurs années de suite, et chaque fois, avec des contacts extrêmement développés, à la fois dans les milieux officiels iraniens, universitaires et autres, mais également dans les milieux tribaux. C'est-à-dire, je suis connu dans un certain nombre de tribus en Iran, ce qui veut dire aussi que la potentialité d'être enlevé ou de faire l'objet de traitements peut-être non désirables était relativement réduite. Donc l'absence de peur tient moins à mes vertus personnelles qu'à un contexte qui est celui de l'Iran dans son ensemble et d'un pays très sûr d'une manière générale.
Stéphane Dudoignon, vous avez aussi l'expérience de terrain à l'époque soviétique. Vous savez ce qu'il en est d'un État totalitaire.
J'ai un peu l'habitude, effectivement, du terrain.
Alors, quelle différence y a-t-il entre l'État soviétique, l'État totalitaire soviétique et l'État... actuel de la République islamique en Iran?
Pour un voyageur, pour un chercheur de base, une différence qui saute aux yeux, par exemple, est celle qu'en URSS, les régions qui étaient inaccessibles aux étrangers en particulier, mais parfois aux citoyens soviétiques eux-mêmes, figuraient toujours sur la carte. Elles étaient indiquées. C'est-à-dire qu'en URSS, on sait très bien où on ne doit pas mettre le pied. Alors qu'en Iran, une partie considérable du territoire national est territoire militaire, de facto, ce qui n'est pas toujours su des étrangers en particulier qui débarquent, puisque ce n'est pas indiqué sur la carte. Beaucoup de légations européennes, d'ambassades à Téhéran ont parfois des diplomates retenus dans des postes de police, parfois pendant plusieurs jours d'affilée, parce qu'ils sont partis avec une voiture 4x4 faire une balade dans la montagne et se sont retrouvés au milieu d'un champ de tir de l'artillerie iranienne, tout simplement parce que tout ça ne figure pas sur les cartes. Donc il y a cet aspect de
d'où peut-être
de flou.
La suspicion avec le geste de la prise de photo,
évidemment,
n'est-ce pas ?
Puisque dans la mesure où vous êtes dans un pays dont une partie considérable du territoire est territoire militaire, évidemment, prendre des photos à peu près à n'importe quel endroit peut être évidemment facteur de risque.
un mot sur le paysage, un paysage qui semble un peu morne, rebutant, mais quand même, il y a des moments qui même dans la rocaille, quelque chose de très fort qui apparaît, et puis particulièrement, nous sommes là aussi avec le Taftan, dans le Daptanikou, dans le sommet, je crois, le plus élevé de l'Iran, non ?
Le deuxième, après, le, justement, le Dabra, ce sont deux volcans.
4800 mètres, je crois, non ?
Absolument, oui. Deux volcans. Alors, les mauvais esprits diront un chiite et un sunnite. Et tout le monde est content, mais ce sur quoi il faut insister sur le paysage baloute, c'est à la fois évidemment sa très grande désolation, en particulier dans toute la partie du nord, mais également sa beauté. Ce sont des paysages lunaires avec des madrépores gigantesques, prenant parfois des formes tout à fait étonnantes.
Sur un déploiement de combien ? De 700-800 km de profondeur sur à peu près 400 km de large ?
Oui, c'est à peu près cet ordre d'idée-là. Donc c'est quand même extrêmement vaste, extrêmement peu peuplé, à part quelques grandes villes où se concentre l'essentiel de l'exode rural. Combien sont les Baloutches ? C'est une excellente question. Les chiffres aussi entre 4 et 9 millions. Donc vous voyez, on n'est pas très 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 avancé. Avec, évidemment,
4 et 9 millions au sein de l'Iran ?
Non, 4 et 9 millions entre Iran, Pakistan et Afghanistan. En Afghanistan, ce sont quelques dizaines de milliers seulement. Et probablement d'ailleurs avec une modification considérable induite par la présence américaine, où on a assisté à la pachtounisation d'un certain nombre de régions de peuplement Baloutche traditionnelles, y compris au Pakistan, où une ville comme Quetta, donc qui est la capitale historique du Baloutchistan pakistanais, qui s'est considérablement à la fois pachtounisée et talibanisée au cours de ces dernières années. Donc je pense que la carte ethnique de l'ensemble de la région, et du Baloutchistan en particulier, sera considérablement modifiée après cette occupation de la coalition internationale dirigée par les Américains. Ça, c'est tout à fait clair. En Iran même, on oscille entre 1,5 million et 2 millions, peut-être 2 très très petits millions, en fait, pour ce qui concerne le Baloutchistan d'Iran lui-même.
Et donc le paysage, on y revient.
Le paysage est extrêmement variable. C'est un pays qui serait tout à fait idéal.
Il y a eu une terrible sécheresse ces 8 dernières années.
C'est une des raisons de l'exode rural continu. C'est une des raisons de l'explosion de la contrebande en Iran également. Alors on sait très très bien que les réseaux de la contrebande, c'est un des problèmes de cette région, sont également très liés à ceux de la guerre, tout simplement, au réseau taliban, voire parfois au réseau d'Al-Qaïda, ce qui évidemment suscite beaucoup d'inquiétudes à Téhéran et explique en partie cette extrême violence avec laquelle Téhéran réprime la contrebande, en particulier de drogue, entre le territoire pakistanais et son propre territoire. Le désert baloutche est une passoire, c'est un désert de pierre, souvent, dans lesquels il est extrêmement facile de discerner les traces de pneus, des motos, des 4x4, des pick-up, qui arpentent ce désert absolument dans tous les sens. Quand vous êtes sur une route du Baloutchistan, surtout si c'est à la tombée de la nuit ou au lever du soleil, vous vous retrouvez entièrement environné de pick-up chargés.
Vous parlez de Détroit, rubans d'asphalte, c'est ça la route ?
Oui, tout à fait. Des trois rubans d'asphalte qui longent donc la frontière et à partir desquels les pick-up, les 4x4, en fait, traversent le désert très facilement pour se retrouver côté pakistanais. L'Iran, par exemple, un des paradoxes de l'Iran, qui est un grand producteur de pétrole, ce sont ces queues absolument interminables au Baloutchistan, aux stations-service, tout simplement parce que l'essence est volée pour être revendu sur le côté pakistanais de la frontière.
Donc, les Baloutches étaient construits, je veux dire, la communauté baloutche était structurée autour de la tribu, c'était des nomades, il en reste très très peu, mais de temps en temps, il vous est arrivé de vous retrouver sous quelques tentes.
Sous quelques tentes, alors c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le Baloutchistan, je pense, y compris le Baloutchistan d'Iran, pourrait faire l'objet d'un tourisme culturel extrêmement intéressant, d'abord parce que ces paysages, certes très durs, sont aussi très contrastés entre le nord extrêmement aride et le sud, des oasis, des bananeraies, des dattraies parfois interminables, et du littoral extrêmement spectaculaire de l'océan Indien.
Là aussi, à la pêche aux requins.
Et la pêche aux requins.
Les fameux bateaux de pêche qui dédient leur pêche aux requins.
Les fameux lenges en bois, peints de toutes les couleurs. Donc on a une très très grande beauté du nord au sud et une très très grande diversité. On a également une grande diversité de mode de vie, puisque si la sécheresse a contribuer à accroître l'exode rural. Malgré tout, les Baloutches pratiquent encore beaucoup l'élevage semi-nomade, l'élevage de transhumance, et arpentent parfois des territoires qui sont extrêmement importants. On voit parfois, quand on est sur le bord des routes, on voit des petits campements de quelques tentes sur le bord des routes. Donc ces deux aspects, le Baloutchistan est à la fois en train de s'urbaniser extrêmement vite, avec la création de banlieues tentaculaires de bidonvilles parfois, comme Azerbaïdjan, mais également avec une continuation de ce mode de vie nomade extrêmement important. Campement nomade arpenté par les missionnaires du Tablir également, qui ne laissent rien au hasard. Donc,
le campement nomade, c'est le signe, la raison pour laquelle il n'y a, pour ainsi dire, pas de vestiges archéologiques ou architecturaux. On n'est pas dans les très belles villes. On n'est ni dans Yazd, ni dans Meshad, ni dans Shiraz, ni dans Ispahan.
Les villes nouvelles n'ont pas un très très grand intérêt. L'architecture principale, donc, est justement une architecture de mosquées, d'écoles religieuses, construites parfois, souvent dans un style, enfin lorsqu'elles sont sunnites, elles sont construites dans un style hindoustanais. On pense parfois à Bollywood, à des décors de cinéma, même à tout à fait extrêmement colorés pour certains, tout à fait monumentaux, qui rivalisent justement avec ces mosquées, ces madrassas chiites, qui, elles, sont construites souvent dans un style très persan, très safavide, avec beaucoup de céramique murale. Donc on a ces deux mondes qui voisinent, parfois à quelques centaines de mètres de distance. Vous avez une mosquée de style de Shiraz, on pourrait vraiment se croiser à Shiraz, à Yazd, comme vous le disiez, à Isfahan. Et à quelques rues de là, vous avez une mosquée qui vous envoie à la fois à Bollywood, dans le sous-continent indien, et tout cela voisine. On est vraiment sur un pas, c'est-à-dire c'est vraiment le pas iranien du sous-continent indien, et c'est une zone justement de contact, de transition qui est tout à fait fascinante et extrêmement intéressante d'un point de vue culturel.
Stéphane Dudoignon, votre livre est illustré, il est scandé d'images, des images dessinées, mais qui semblent partir de photographies. Ce doit être les photos que vous avez prises, puisque vous insistez beaucoup sur votre œil photographe dans cette traversée, Stéphane Dudoignon, avec parfois les risques ou la suspicion que cela a pu susciter. Et je vois en deuxième page, c'est-à-dire la page de gauche par rapport à la page, à la belle page par laquelle commence le livre, illustration Alexandre Gavendoff. Oui. Et j'ai l'impression que cet illustrateur est dans l'esprit de la bande dessinée. Et votre livre, je l'imagine parfaitement.
Merci.
Adapté à une BD.
On y a réfléchi et à vrai dire, ça a été un des défis. C'est vrai que j'ai essayé de faire un livre qui serait les aventures du capitaine Haddock au Baloutchistan quelque part. Donc le challenge, le défi, c'était de produire des illustrations qui soient adaptées à ce propos. Et donc j'ai demandé à Alexandre Gavendoff, donc qui est un illustrateur originaire du Tadjikistan, de faire de la ligne claire tout simplement. Et à partir donc de photographies que j'ai prises au Baloutchistan, il les a retraitées. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à la fois on a de la photo, donc quelque chose qui a une valeur documentaire intéressante, mais en même temps, on a pris la distance par rapport à ça, justement, avec cette ligne claire. On a essayé donc de créer un certain nombre de renvois. J'ai joué dans le texte de ces renvois, avec des renvois à Kessel, à Morand et à un certain nombre d'autres. C'est malgré tout un texte qui est un peu surécrit, parce qu'il renvoie aussi à une tradition de reportage que j'ai voulu, de reportage ethnographique que j'ai voulu revisiter pour la mettre à distance, et aussi
cas,
de renvois iconographiques.
Il y a de bout en bout de la verve. C'est ce que je voudrais dire. C'est un très beau livre, ce voyage au pays des Baloutches. Peut-être finirions-nous par un mot, parce que nous avons rencontré cette remarque faite par beaucoup de vos interlocuteurs et protagonistes, si j'ose l'expression, l'immense richesse de la musique. D'ailleurs, je laisserai le soin, comme toujours, à François Connac de nous illustrer d'une manière admirable et comme il sait le faire, de puiser dans ce fond de la musique baloutche.
Nous sommes dans une grande terre de soufisme et de mysticisme.
Merci beaucoup. Merci. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb. Je rappelle le titre de l'ouvrage de notre invité Stéphane Dudoignon, Voyage au pays des Baloutches, paru aux éditions Cartouche. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, coordination Dominique Compétissa, technique son Michel Mestre, réalisation mise en onde François Connac. Vous le souhaitez, vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur le site de France Culture à la page Culture d'Islam.